Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous déplaçons, nous allons dans un site tout à fait sympathique. Le soleil brille, les petites fleurs sont dans les prairies. Nous sommes à côté de la Seine, nous sommes à Vix. Vix, c'est un endroit bien connu. Nous voulons à la fois vous parler de la Dame de Vix, mais également aussi du Mont Lassois, essentiel pour comprendre en quoi ce lieu est un lieu archéologique. Et je vous rappelle que l'archéologie, c'est ce qui nous permet de savoir d'où nous venons. C'est donc une science importante. Et pour cela, aujourd'hui, nous rencontrons Bruno Chaume, directeur des fouilles de Vix et également responsable au CNRS. Bonjour Bruno.
Bonjour à vous. Je suis Bruno Chaume, chargé de recherche hors classe au CNRS et j'appartiens à une équipe de Dijon, l'équipe Arteis, dirigée par Sabine Lefebvre. Je m'occupe du site de Vix depuis 31 ans. Lors de ma première fouille, je suis tombé, on peut le dire, sur la Dame de Vix, puisque j'ai découvert avec mon collègue Walter Reinhardt, qui m'accompagnait déjà, deux statues, dont l'une est probablement l'image présentation de la Dame de Vix. Malheureusement, elles sont acéphales, donc il nous manque la tête, mais l'ADN et les reconstitutions faciales ont rétabli l'équilibre en nous présentant un très joli visage. Ça a été publié dans Archéologia l'année passée. Donc la recherche à Vix, vous savez, ça a démarré petitement, des petits moyens, une petite équipe, et en 30 ans, on a réussi notamment à remettre à flot la connaissance du site, notamment sur l'habitat. C'était une lacune importante des recherches de René Geoffroy, mon prédécesseur sur le site, l'archéologue qui a trouvé en 1953 la fameuse tombe princière dite de la Dame de Vix. Cette découverte donc, a fait entrer Vix dans la proto-histoire, et la proto-histoire des Celtes, hein, puisqu'il s'agit d'une tombe celtique, de la fin du premier âge du fer, des environs de 500, pour faire simple, avant Jésus-Christ, bien entendu. Si quelques sépultures étaient connues, l'habitat, par contre, l'était moins. C'est pour ça que nous avons insisté, dès les années 2000, avec la mise en place d'un grand programme international, sur cette recherche concernant l'habitat.
Si vous dites habitat, c'est qu'il n'y a pas que la tombe.
S'agissant des nécropoles, elle n'était pas connue en 1953. La première tombe qui a été trouvée à Vix, c'est la tombe de la Dame de Vix. Mais bien entendu, les recherches ensuite se sont développées, grâce à la photographie aérienne notamment, les photos de René Goguet. Plus particulièrement, la connaissance des nécropoles a atteint un assez bon niveau dans les années 60-70. Et ensuite, il y a eu une interruption entre 70 et 90. Et c'est en 91 que je reprends les recherches avec cette découverte d'un enclos cultuel dans lequel se trouvaient donc ces deux fameuses statues. Ensuite, dans les années 2000, la mise en place de ce grand programme international que j'évoquais précédemment a permis de développer plusieurs fouilles sur l'habitat, les bâtiments, mais aussi le système de fortification qui est monumental, complexe. Avec tout est gros, il n'y a pas que le cratère, hein, tout est surdimensionné. Il n'était pas nécessaire d'avoir des fossés qui faisaient 30 mètres de large, 10 mètres de profondeur pour avoir un système défensif efficace. Et c'est pas ce qu'ils ont recherché. Ils ont recherché donc la monumentalité. Et ça, ça veut dire beaucoup pour la société de l'époque. Dans les bâtiments, idem. Le plateau supérieur du Mont Lassois est organisé comme un lotissement moderne, avec une grande rue et puis de chaque côté des enclos bâtis en partie, et sur l'arrière, un espace libre pour des jardins, des vergers, contrairement aux habitats proto-historiques lambda.
Un habitat qui est en pleine nature. Certes, il y a la Seine à côté, mais pourquoi cette importance? Qu'est-ce qu'il justifie?
L'habitat de Vix-le-Mont-Lassois, c'est-à-dire le site de hauteur, hein, qui domine donc, la vallée de la Seine et la rivière qui est juste derrière nous. Donc cet habitat a une superficie d'environ 45 hectares, intramuros, mais il s'étend entre le pied du mont et la Seine en plusieurs endroits. Donc la superficie donc, augmente considérablement et on a même, les années passées, découvert une extension rive droite de la Seine, donc il fallait franchir la Seine pour accéder à cet espace doté d'un très grand bâtiment abside. Donc c'est aussi un espace résidentiel, probablement avec des fonctions portuaires, en tout cas en partie, mais pas un port au sens moderne du terme, bien entendu, hein, mais un lieu où on pouvait abriter des bateaux, probablement faire du transbordement. C'est une des richesses du site et sur un axe majeur de circulation, Seine. Ensuite, si vous remontez la vallée de la Seine, vous arrivez sur le plateau châtillonnais et immédiatement après sur Dijon, la vallée de la Saône, puis Saône, Rhône et la Méditerranée. et les cultures étrusques et grecques, surtout la Grande Grèce, c'est-à-dire l'Italie du Sud, qui à l'époque avait été colonisée dès le 8e siècle par les Grecs.
Peut-on penser qu'il y avait des relations commerciales entre les groupes ?
Il y avait des échanges entre les grandes cités hallstattiennes, dont Vix fait partie, et le monde méditerranéen, via Marseille notamment, les Grecs de Marseille. Marseille était fondée en 600 avant Jésus-Christ, donc une période légèrement antérieure à la fondation ex-aristocratique de Vix-le-Mont-la-Soie, qui apparaît un peu après 600. Tout ceci est contemporain, et c'est aussi ce moment-là où les cités grecques du sud de l'Italie connaissent une certaine ampleur, commercent avec Marseille, on le sait, notamment par des échanges d'amphores, et cherchent à atteindre, que ce soit les Grecs du sud de l'Italie ou les Étrusques, cherchent à atteindre les principautés hallstattiennes. Alors, pour commercer, pour échanger, quel type de marchandises ? Bon, ça, c'est une grande question auquel on ne peut pas vraiment répondre, mais on peut imaginer qu'ils recherchaient des métaux, des céréales, peut-être même des esclaves. On en est réduit sur ce point-là à des hypothèses. Et en contrepartie, les Étrusques ou les Grecs envoyaient des biens de prestige dans un type d'échange qu'on appelle le don et le contre-don, qui a été théorisé par Marcel Mauss, le sociologue français. Ce fut l'un des premiers à évoquer cette théorie du don et du contre-don.
Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui avec Bruno Chaume et nous parlons du Mont La Soie. Le Mont La Soie, c'est également Vix, vous vous en doutez, enfin, ou maintenant, vous le savez. Bibracte, Vix, elles sont celtiques toutes les deux, me semble-t-il.
Oui, Vix et Bibracte sont effectivement des cités celtiques, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes Celtes. Pour employer une expression un peu triviale, il y a un écart chronologique important entre le 2e siècle, Bibracte, 2e, 1er siècle avant, pour la période celtique, peut-être même fin du 3e, et Vix qui a son apogée vers 500 et qui disparaît totalement vers 450.
Et à quoi peut-on attribuer cette disparition ?
C'est une succession de phénomènes qui ont abouti à la disparition du site, à l'abandon du site. Vix ne s'est plus trouvé sur les principales routes d'échange commerciaux. Mais il faut aussi certainement tenir compte du fait que la société était pressurée. C'est une société très hiérarchisée, donc avec une caste dominante qui s'est maintenue au pouvoir. Certainement que le pouvoir, à un moment donné, vers 600 avant Jésus-Christ, est devenu héréditaire, d'où l'apparition plus en plus importante des femmes au sommet de la hiérarchie. C'est parce qu'elles venaient dans l'ordre de succession. Au début du Hallstatt, c'était des hommes, c'était des guerriers, avec la grande épée, parfois de la vaisselle en bronze venant de l'Étrurie. Donc ce système très hiérarchisé a connu des vicissitudes, sans doute des heurts, peut-être des conflits sociaux. On a quand même à Vix un indice extrêmement important. Je reviens à cette première fouille que j'ai faite en 92-93, sur le sanctuaire des Herbues. Les statues étaient acéphales, c'est-à-dire qu'elles n'avaient plus leur tête. On les a consciencieusement pilées, elles ont été détruites, comme le sanctuaire l'a été, brutalement. On a voulu effacer du paysage, et sans doute a-t-on aussi tenté d'effacer de la mémoire collective la représentation de ces personnages de l'aristocratie.
Merci Bruno, nous allons maintenant nous transporter au musée. Nous laissons le Mont La Soie pour arriver au musée de Châtillon-sur-Seine, musée remarquable, d'abord par Catherine Monet, sa directrice d'une part, et d'autre part par la dame de Vix. Bonjour Catherine, merci de nous recevoir.
Bonjour Gérard.
Que pouvez-vous nous dire de la dame de Vix et surtout de son fabuleux trésor ?
Alors, cette femme, dite princesse ou dite dame, d'emblée, j'utilise aucun de ces deux mots. Le mot dame correspond à la période à laquelle elle a été découverte et qui est un mot quand même à la fois désuet et un peu misogyne, peut-être quand même quelque part. Je pense que si ça avait été un homme, on ne l'aurait pas appelé damoiseau. Et puis princesse, certes, il y a un concept qui avait été élaboré par des spécialistes de prince et princesse pour la période d'Hallstatt. C'est là aussi se positionner en situation d'infériorité avec le complexe des mondes méditerranéens cultivés, supérieurs en fait au monde de l'Europe tempérée. Et donc là non plus, je ne reprends pas du tout ces termes de ce concept de principauté. Je pense qu'à l'époque, on n'avait que des rois et des reines en réalité. Pour le reste du monde et pour les sources écrites que l'on en a, on parle que de rois et de Rennes. Et on en vient à cette fameuse femme, fameuse non pas pour les quelques ossements qui nous en sont parvenus, mais surtout pour tous les objets qui avaient été déposés dans sa dernière demeure, comme on dit, et qui nous sont parvenus. Alors évidemment, ce qui a disparu, c'est tout ce qui était matériaux organiques. Les conditions de conservation pendant 2000 ans, même 2500 ans, n'ont pas permis de les conserver. On peut imaginer qu'il y avait des tissus, notamment elle était forcément habillée avec des vêtements de tissu, des sacs en cuir, également dans sa sépulture, peut-être du mobilier en bois qui a disparu, une multitude de choses, des aliments qui ont également disparu. Donc nous sont parvenus en fait que le mobilier métallique qui résiste pendant pas mal de temps dans les conditions de conservation du sous-sol.
Et par rapport à ce mobilier métallique, on parle plus spécialement, je crois, du vase ou du cratère, c'est cela ?
Voilà, absolument, et évidemment, le cratère qui prenait beaucoup de place dans sa chambre funéraire, donc souterraine. Quelques mots, oui, sur la manière dont elle est inhumée et qui fait qu'elle appartient à ce vaste domaine de la culture Hallstatt qui s'étend depuis l'Autriche jusqu'ici l'est de la France, sous forme d'une énorme banane au-dessus de l'arc alpin. Culture donc bien identifiée et bien particulière, culture très hiérarchisée au niveau de la société, avec en fait à la base des esclaves et puis en haut une élite politique, une élite religieuse, une élite militaire. Et cette femme, évidemment, au vu de ce qui l'entoure dans sa chambre funéraire souterraine, appartient évidemment à cette élite. Alors, quelle est-elle ? Elle a une fonction politique ? On ne sait pas. Une fonction religieuse ? On ne sait pas. Une fonction militaire ? En tous les cas, elle n'a pas d'armes avec elle, donc peut-être pas. C'est l'un des trois éléments qu'on pourrait éliminer. Religieux, politique, de toute façon, vraisemblablement à cette époque-là, ces pouvoirs sont mélangés et sont communs à cette élite. Aujourd'hui, on revient peut-être à des choses plutôt religieuses parce que je remets en question l'interprétation en fait, de ce gros bijou en or qui est dit torque depuis les années 90, mais qui était dit diadème depuis sa découverte. Et moi, j'aurais tendance à nouveau à reparler d'un diadème parce que, en fait, en tant que torque, il est très ouvert. D'abord, il ne ressemble à aucun autre torque découvert jusque maintenant en Europe pour cette culture Hallstatt. Quand on en passe la copie autour du cou, on n'est pas du tout à l'aise. Il tombe très facilement. Il est très ouvert. Et puis, la forme du jonc aplati et les deux boules qui le terminent prennent plus de sens en fait quand on le porte sur la tête qu'autour du cou. J'aurais tendance plutôt à penser que cette femme avait un rôle religieux plutôt qu'un rôle politique. Sachant qu'on attache au torque plutôt les symboles du pouvoir politique que les hommes et les femmes portaient à cette époque-là.
Mais rassurez-moi quand même, le cratère, c'est bien un cratère.
Oui, alors quant au cratère, effectivement, alors on aime maintenant utiliser le mot cratère parce que on a la chance que le mot utilisé à l'époque de la fabrication de cet objet extraordinaire, soit encore connu. Donc c'est le mot cratère qui vient du grec donc mixé, mélangé. Donc c'était pour le mélange du vin, parce qu'on ne consommait pas le vin à l'époque comme ça. On le mélangeait avec de l'eau pour l'adoucir et même mélanger avec des herbes. Donc ça devait faire une mixture un peu particulière à laquelle nous serions plus trop habitués en termes de goût. Là, on a vraiment un cratère et on a la chance d'avoir ce mot qui nous vient quand même de la plus haute antiquité. Donc j'aime l'associer à cet objet parce que là, on a vraiment un vrai cratère.
Avec des vraies anses.
Oui, alors tout est vrai, évidemment. Il y a une copie qui est dans la chambre funéraire reconstituée. Le torque diadème est évidemment un vrai, 480 grammes d'or. Et le cratère, lui, c'est 1,64 m de haut, 280 kg de bronze. Il est bien vrai. Mais par contre, j'ai découvert que c'était un objet dont les parties ont été réassemblées avant certainement d'être offert, remis peut-être en cadeau diplomatique à cette tribu, à ce groupe qui vivait sur le mont Lassois. Aujourd'hui à Vix. En réalité, ce cratère est donc un objet recomposé. Les deux anses, qui sont de style étrusque oriental, au niveau stylistique, ne correspondent absolument pas à la frise qui orne le col. Le style est évidemment strictement athénien. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un cortège qui fait défiler des auriges avec leurs chevaux et leurs chars, suivi par des hoplites. D'ailleurs, les anses actuelles occupent peut-être plus de place que les anses qui étaient installées à l'origine, parce que le cratère a été moulé. Donc, en termes de datation, on est sur deux périodes un peu différentes. Les anses orientales sont évidemment plus récentes que la frise athénienne. Donc, il va falloir aussi réétudier l'ensemble. Le couvercle qui fermait ce cratère est également rafistolé, puisqu'en fait, il a fallu découper à la rougneuse. Donc, des hommes, il y a 2500 ans, ont découpé à la rougneuse une partie du couvercle pour que les nouvelles anses puissent laisser passer le couvercle. cercle. Donc du rafistolage, mais les personnes à qui on a offert ça, ce groupe du hashtag, n'y a vu que du feu. Mais évidemment, c'était un objet absolument incroyable qui a dû être reçu avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'attention dans ce monde Hallstatt.
Et on peut avoir une idée de la raison pour laquelle les anses ont été changées ?
J'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être la conjugaison de deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a peut-être une dimension symbolique. La gorgone, les serpents, etc., on pourrait faire référence à Athéna, à Déméter, à un certain nombre d'assemblages en fait, du panthéon grec qui auraient été assimilés par une acculturation en fait, de certaines populations Hallstatt, une acculturation donc, des religions méditerranéennes. Ça reste parmi les possibles et je pense qu'il va falloir regarder ça à nouveau de plus près, d'autant plus qu'à l'arrière des anses, avec la gorgone et ses serpents, on a rajouté aussi deux lions de part et d'autre. Et les lions, en fait, je pensais qu'ils étaient à l'origine dans les anses, faisaient partie des anses, mais pas du tout. La technique de couler n'est pas la même que pour les anses elles-mêmes. Et le bronze ne semble être pas le même non plus. Et donc, on a cherché aussi à combler le vide des anses par des lions. Et donc, ces lions peuvent prendre aussi une dimension symbolique. Et puis, l'autre possible, c'est une usure. Si ça se trouve, le cratère d'origine a vécu énormément. Les anses étaient peut-être beaucoup plus fragiles. Et il a fallu, à un moment donné, les remplacer et en substituer de nouvelles. Donc voilà, je pense qu'on a de toute façon devant nous un objet qui a beaucoup vécu et très très longtemps vécu en fait.
Eh bien merci Catherine, merci Madame la Directrice. Maintenant nous ne verrons plus ce cratère avec les mêmes yeux. Merci d'avoir partagé avec nous vos dernières découvertes relatives à cet exceptionnel cratère de Vix. Notre émission d'aujourd'hui nous a emmenés à Vix et au mont Lassois que Bruno Chaume nous a présenté. Au centre du village, vous trouverez une remarquable documentation sur des panneaux qui présentent le site. Surtout, n'oubliez pas de scanner le QR code qui vous fait accéder à une vidéo en 3D tout à fait étonnante. Nous avons été ensuite reçus au musée de Châtillon-sur-Seine par Catherine Monet, passionnée et passionnante directrice, qui nous a fait partager ses dernières recherches sur le vase de Vix et sur le torque. La section archéologique de ce musée ne se résume pas au torque diadème ou au cratère. La collection et le trésor sont beaucoup plus importants. Par ailleurs, je tiens à signaler que ce musée présente également de remarquables pièces historiques, peintures, sculptures, bustes, ainsi qu'une étonnante collection de plaques d'imprimeries anciennes, avec ses impressions. Nous y trouvons également des souvenirs du maréchal Marmont, maréchal d'Empire de Napoléon Ier. Et bien d'autres choses, ce n'est pas qu'un musée archéologique. Que vous dire d'autre alors ? Eh bien, venez et voyez. Vous aurez toujours sur patrimoine-environnement-patenvbfc.org la vidéo correspondant à cette émission. Et maintenant, place aux actualités de ce jour.